fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet. Bonjour à tous, bonjour Michel Valmer, bonjour Camille.
Bonjour Camille, bonjour Françoise.
Et merci à vous, auditeurs de JTFM, d'être encore à l'écoute de notre émission Fantômes et Merveilles, émission sous-titrée aujourd'hui Vertige et Poésie Songe, ou plus exactement Entretien d'un philosophe avec la maréchale de, car nous allons encore poursuivre pour vous la lecture de ce texte hallucinant de Denis Diderot qui, je l'ai déjà dit, mais n'a pas pris une ride de nos jours.
Et rappelons encore une fois que c'est vous, Françoise, qui l'avez adapté avec Gerhard Steinger, ce texte de Diderot. Et pour mener à bien cette aventure radiophonique, je signale encore que Camille Daboville jouera le rôle de la servante de Madame la Maréchale.
Quitte pour croire que les animaux sont des machines.
Et l'homme, qui n'est qu'un animal un peu plus parfait qu'un autre. Ah là 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 là, là je crois que c'est monsieur le maréchal qui revient tout pour de bon. À coup sûr, il faut que je le voie.
Non, ce n'est pas lui. Non. Encore une question, monsieur Diderot.
Madame la maréchale, comprenez-moi, cette affaire du tableau est des plus importantes.
Je vous jure que c'est la dernière question.
Oui, soit, mais...
Êtes-vous bien tranquille ? Dans votre incrédulité ?
On ne saurait davantage.
Pourtant, si vous vous trompiez ?
Quand je me tromperais ?
Tout ce que vous croyez faux serait vrai. Et vous seriez damné. Monsieur Diderot, c'est une terrible chose que d'être damné. Brûlé toute une éternité, c'est bien long.
Mais La Fontaine croyait que nous nous y ferions. Comme le poisson dans l'eau.
Oui, oui, oui. Mais votre Jean de La Fontaine devint bien sérieux au dernier moment. Et c'est là où je vous attends.
Je ne réponds de rien quand ma tête n'y sera plus. Mais si je finis par une de ces maladies qui laissent à l'homme agonisant toute sa raison, je ne serai pas plus troublé au moment où vous m'attendez qu'au moment où vous me voyez ici, en ce moment même.
Cette intrépidité me confond.
Je trouve bien plus intrépide le moribond qui ne tremble pas devant votre Dieu.
Que dites-vous là, monsieur Diderot ?
Madame la maréchale, si ce moribond avait alors à son choix ou d'être anéanti, ou de se présenter devant ce juge sévère, qui pèse jusqu'à nos plus secrètes pensées, son intrépidité me confondrait bien autrement s'il ne préférait pas être anéanti. À moins qu'il ne fût plus ivre de son mérite que Bolla.
Je n'ai jamais entendu parler de Bolla.
Oh, c'était un jésuite de Pinsk, en Lituanie, qui laissa en mourant une cassette pleine d'argent avec un billet écrit et signé de sa main.
Et que disait ce billet ?
Il était conçu en ces termes. « Je prie, mon cher confrère, dépositaire de la cassette, de l'ouvrir lorsque j'aurai fait des miracles. L'argent qu'elle contient servira aux frais de mon procès et de ma béatification. J'y ajoutais quelques mémoires authentiques pour la confirmation de mes vertus et qui pourront servir utilement à ceux qui entreprendront d'écrire ma vie.
C'est à mourir de rire.
Pour moi, madame. Mais, pour vous, votre Dieu n'entend point cette raillerie.
Vous avez raison.
Madame la maréchale, Convenez qu'il est bien vite fait de pécher grièvement contre la loi de votre Dieu.
J'en conviens.
La justice qui décidera de votre sort devant votre Dieu est bien rigoureuse.
Il est vrai.
Et si vous en croyez les oracles de votre religion sur le nombre des élus, ah là là, il est bien petit. S'il faut 100 000 damnés pour un sauvé, le diable a toujours l'avantage. Et pourtant, le diable n'a pas abandonné son fils à la mort. Oh. Par quelle loi croyez-vous, l'incrédulité que je suis, car je suis incrédule, sera-t-il jugé ?
Votre cas est un peu différent, monsieur Diderot. Vous êtes de ceux qui ferment les yeux à la lumière qui les éclaire et qui se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la vérité de ceux qui leur parlent.
Madame la maréchale, on n'est pas maître de croire ou de ne pas croire. Oh. L'auteur de la nature ne me punira pas pour avoir été sourd et aveugle, puisque c'est lui qui m'aura fait ainsi.
La belle excuse.
Madame la maréchale, Dieu n'a pu créer l'homme libre. Car on n'agit point sans motif déterminant. Un homme qui agit sans motif ne se conçoit pas plus qu'une action sans cause. Et tout motif, qu'il nous soit extérieur ou intérieur, est indépendant de nous. Il me serait très facile de vous démontrer que vous passez les trois quarts de votre vie sans vouloir.
Oh, vous êtes fou, monsieur Diderot. Est-ce que je ne suis pas libre de choisir entre semi-sel et semi-miroir ?
Non. Vous ne pouvez prendre que le micel, là.
Je veux prendre le miroir, donc je prends le miroir. Je suis libre.
Permettez-moi de rire. Ce n'est pas vous qui avez pris le miroir, c'est moi.
C'est bien ce que je dis, vous êtes fou.
Je ne suis pas fou du tout.
C'est moi qui ai pris ce miroir. Je le tiens dans ma main.
C'est moi qui me suis emparé par ma contradiction de votre main et qui en est disposée. C'est le désir de me montrer votre liberté qui est le grand motif qui vous a fait agir. Et non, votre volonté.
Ah, oh, il est bien beau. Par la fenêtre. N'en suis-je pas libre ?
Ah non.
Et si je m'y jette ?
Là, vous me prouverez que c'est vous qui êtes folle. Mais pas libre. Car votre désir de me convaincre serait devenu un motif assez fort pour vous faire sacrifier votre propre vie. Ainsi, si vous vous précipitez à travers cette fenêtre, c'est moi qui, en réalité, vous précipite aussi violemment que si j'y employais la force. Je vous ai fait tout à l'heure une histoire de serpent du Pérou, et il me prend à présent l'envie de vous faire un conte. Vous êtes prête ? On y va ?
Oui, je vous écoute.
Un jeune Mexicain... Ah non, mais attendez. Là, il me semble que monsieur le maréchal est arrivé. Je crois entendre sa voix là, dans l'entrée.
Ah, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe.
Monsieur Diderot venait bien d'entendre la voix de monsieur le maréchal qui embrassait ses enfants dans l'entrée de l'immeuble. Madame la maréchale l'avait bien entendu aussi, tout comme monsieur Diderot et tout comme moi. Cependant, madame la maréchale avait très envie d'entendre le conte de monsieur Diderot.
Allez dire à monsieur le maréchal que je ne suis pas encore tout à fait prête.
Je lui obéis donc et sortis promptement prévenir monsieur le maréchal.
Faites-moi votre conte.
Le conte du Mexicain, donc. Là, de son travail, un jeune Mexicain se promène un jour au bord de la mer. Il voit une planche qui trempe d'un bout dans les eaux et qui, de l'autre, pose sur le rivage. Il s'assied sur cette planche. Et là, prolongeant ses regards sur la vaste étendue qui se déploie devant lui, il se dit « Jamais je ne croirai les bavardages de ma grand-mère avec ses histoires de je ne sais quels habitants qui, dans je ne sais quel temps, abordèrent ici, de je ne sais où, d'une contrée au-delà de nos mers. Il n'y a pas de sens commun dans ce qu'elle raconte. Et quand il y aurait le sens commun, ne vois-je pas la mer confinée avec le ciel ? Et puis-je croire contre le témoignage de mes sens, une vieille fable dont on ignore la date, que chacun arrange à sa manière et qui n'est qu'un tissu de circonstances absurdes sur lesquelles on se mange le cœur et s'arrache le blanc des yeux. Tandis que ce Mexicain raisonnait ainsi, il s'est confortablement installé sur sa planche, les os agités, le berce, et pouf, il s'endort. Pendant qu'il dort, le vent s'accroît, le flot soulève la planche sur laquelle il est étendu, et voilà notre jeune raisonneur embarqué.
Hélas, c'est bien là notre image. Nous sommes chacun sur notre planche, le vent souffle et le flot nous emporte.
Il est déjà bien loin du continent lorsqu'il s'éveille. Qui est bien surpris de se trouver en pleine mer ? C'est notre Mexicain. Qui l'est bien davantage ? C'est encore lui. Lorsqu'ayant perdu de vue le rivage sur lequel il se promenait il n'y a qu'un instant, la mer lui paraît confinée avec le ciel. De tous côtés, alors le Mexicain soupçonne qu'il pourrait bien s'être trompé et que si le vent en restait au même point, peut-être serait-il porté sur l'autre rive et parmi ces habitants terribles dont sa grand-mère l'avait si souvent entretenu.
Et de son souci, vous ne m'en dites mot ?
Il n'en a point, il se dit « Qu'est-ce que cela me fait ? Pourvu que j'aborde, j'ai raisonné, comme un étourdi, soit, mais j'ai été sincère avec moi-même. » Et c'est tout ce que l'on peut exiger de moi. Et si ce n'est pas une vertu que d'avoir de l'esprit, ce n'est pas un crime que d'en manquer. Cependant, le vent continue de souffler, l'homme et la planche voguent, et la rive inconnue commence à paraître. Il y touche, et l'y voilà.
Nous nous y reverrons un jour, monsieur Diderot, sur cette rive-là.
Oh, je le souhaite, madame la maréchale. Et en quelque endroit que ce soit, sachez que je serai toujours très flatté de vous faire ma cour. Notre Mexicain a-t-il quitté sa planche et mis le pied sur le sable, qu'il aperçoit un vieillard vénérable, debout, à ses côtés. Il lui demande où il est et à qui il a l'honneur de parler.
« Je suis le souverain de la contrée !»
lui répond le vieillard. À l'instant, le Mexicain se prosterne.
« Relevez-vous !» lui dit le vieillard. « Vous aviez nié mon existence !»«
Il est vrai, répond le Mexicain.
« Et celle de mon empire !»
continue le vieillard. « Il est vrai, répète le Mexicain.
« Je vous le pardonne, parce que je suis celui qui voit le fond des cœurs et que j'ai lu au fond du vôtre que vous étiez de bonne foi. Mais le reste de vos pensées, de vos actions, n'est pas également innocent. » Alors le vieillard l'attrape par l'oreille et lui rappelle toutes les erreurs de sa vie. Et à chaque article, le jeune Mexicain s'incline, se frappe la poitrine, demande pardon.
Ah, et là, madame la maréchale, mettez-vous pour un moment à la place du vieillard et dites-moi ce que vous auriez fait. Auriez-vous pris ce jeune insensé de Mexicain par les cheveux et vous seriez-vous complu à le traîner à toute éternité sur le rivage ?
En vérité, non.
Si un de ces si jolis enfants que vous avez, après s'être éloigné de la maison paternelle et avoir fait force bêtise, y revenait bien repentant.
Moi ? Je courrais à sa rencontre, je le serrais entre mes bras et je l'arroserais de mes larmes.
Oui.
Mais monsieur le maréchal ne prendrait pas la chose si doucement.
Monsieur le maréchal n'est pas un tigre.
Ah, bien sûr, mais...
Il se ferait peut-être un peu tirailler, mais il pardonnerait.
Certainement.
Surtout s'il venait à considérer qu'avant de donner naissance à cet enfant, il en savait toute la vie. Et que le châtiment de ses fautes serait sans aucune utilité, ni pour lui-même, ni pour les coupables, ni pour ses frères.
Le vieillard et monsieur le maréchal sont deux.
Vous voulez dire que monsieur le maréchal est meilleur que
le vieillard?
Dieu m'en garde. Je veux dire que si ma justice n'est pas celle de monsieur le maréchal, la justice de monsieur le maréchal pourrait bien n'être pas celle du vieillard.
Ah, madame... Vous ne sentez pas les suites de cette réponse? Ou la définition générale de la justice convient également à vous, à monsieur le maréchal, à moi, au jeune Mexicain et au vieillard? Ou je ne sais plus ce que c'est. Et j'ignore comment on plaît ou l'on déplaît au vieillard, justement.
Ils en étaient là lorsque je vins avertir madame que son mari désirait à présent la voir car il devait bientôt repartir. Monsieur Diderot s'empressa de saluer madame, car il devait absolument parler à monsieur. Madame l'arrêta une dernière fois pour lui dire gaiement
« Ce conte est à faire tourner la tête. N'est-il pas vrai ?»«
Pourquoi donc, quand on a une bonne tête ?»«
Après tout, le plus court est de se conduire comme si le vieillard existait. »«
Même quand on n'y croit pas. » »«
Et quand on y croit ?» De ne pas trop compter sur sa bonté.
Et si ce n'est pas plus poli, c'est du moins le plus sûr.
À propos, si vous aviez à rendre compte de vos principes à nos magistrats, les avoueriez-vous ?
Je ferais de mon mieux pour leur épargner une action atroce.
Ah, le lâche ! Et si vous étiez sur le point de mourir, vous soumettriez-vous aux cérémonies de l'Église ?
Je n'y manquerai pas.
Fi, le vilain hypocrite.
Françoise, Camille, Théo, c'est déjà la fin de l'émission.
Oui, mais on reprendra la semaine prochaine. Alors, soyez à l'écoute. Au revoir, amis de JTFM. Au revoir, Michel. Au revoir, Camille. Merci, Théo, pour la collaboration technique.
Et à bientôt.
À la semaine prochaine. Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.